pour savoir tout, tout sur le sport, voici Olivier Beauregard.
Ah, il y a une semaine, il nous disait, on ne panique pas, c'est un début de saison, ça commence à peine. Là, Olivier Beauregard, est-ce qu'on peut appuyer sur le bouton panique du Canadien de Montréal?
Si vous l'avez à côté de vous, là c'est le temps. Là, on pèse dessus assez fort.
Donc, qu'est-ce qui se passe avec le Canadien?
Ah, ben écoute, le début de saison, les déboires de début de saison ne font que s'accumuler. Là, on va être honnête, là, depuis le début de l'année, l'avantage numérique est à sec. On n'est pas capable de marquer des buts. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est que non seulement on semble pas être en mesure de marquer des buts, on n'est pas capable de protéger non plus notre gardien. Donc ça crée vraiment le chaos sur la patinoire. Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont à l'écoute qui ont vu le match de mardi contre les Sharks de San Jose, mais honnêtement, on disait à quel point l'enjeu est important, c'est-à-dire l'enjeu de revirer, si tu veux, un peu, de tourner le vent de côté, de revirer la situation de bord. Finalement, ça a été tout le contraire. Là, on a accordé un but, il y avait 1:20 de jouer, je pense, au match. Puis après ça, bon, on connaît le résultat. Là, ça s'est terminé 5-0. C'est vraiment pas un bon début de saison. Là, je sais qu'il y en a qui disent que c'est la première depuis X nombre d'années. C'est pas tant ça, moi, qui m'inquiète. C'est surtout le manque de volonté. J'ai l'impression que les joueurs du Canadien, présentement, là, sont pas embarqués dans le fameux bateau du début de saison. Tu sais, souvent, Sébastien, ce qu'on dit, c'est que des équipes qui terminent tard leur saison régulière parce qu'ils ont participé, je te donne un exemple, à la finale de la Coupe Stanley, ont peut-être un lendemain de veille, là, tu sais, pour faire un jeu de mots, qui dure un peu plus longtemps, qui prend le début de la saison. Par contre, là, quand on regarde dans les dernières années, oui, il y a eu les Stars de Dallas qui avaient atteint la finale de la Coupe Stanley, qui ont eu un début difficile l'an passé, mais il y a d'autres équipes là derrière ça qui ont toujours été capables de se relever, je pense aux Bruins de Boston, qui ont toujours été capables de compétitionner dès que la saison commençait. Et le Canadien, là, je pense pas qu'on doit se servir de ça comme excuse. Une participation à la finale de la Coupe Stanley, honnêtement, c'est un privilège. Mm-hmm. C'est parce que ton équipe a réussi à se rendre là. Mais si ça devient une excuse pour connaître un début de saison comme on connaît chez le Canadien de Montréal, honnêtement, là, ben, Colin, à ce compte-là, faut plus jamais aller à la finale de la Coupe Stanley. Tu comprends? Parce que ça va faire un début de saison chaotique. Tu mets ton début de saison. Puis, on le dit tout le temps, hein, les 10 premiers matchs de la saison sont tellement importants pour la suite des choses. Parce que quand tu arrives en série éliminatoire ou quand tu te bats pour une place en série, ben c'est ces fameux matchs-là qui comptent au bout de la ligne. C'est ce début de saison-là qui fait en sorte que tu te classes ou tu te classes pas pour les séries éliminatoires. Alors, non, honnêtement, c'est inquiétant comme début de saison. Puis là, je le conçois là, puis je le donne à nos auditeurs qui nous écoutent. Vous avez raison, là, c'est le temps de paniquer un petit peu.
Et là, ben puis là, l'intervention de Marc Bergevin là-dedans, est-ce que ça ajoute de l'huile sur le feu? Est-ce que ça met de la pression supplémentaire? Est-ce que ça a quoi comme impact là, à part nous dire, hey, ça va pas bien, mais vous en étiez rendu compte?
Ben, je pense qu'il y a deux choses à retenir de ce point de presse-là de Marc Bergevin cette semaine. Un point de presse qui est, disons-le, là, a été tenu sans annonce. C'est-à-dire qu'on a décidé après un entraînement matinal que le DG allait parler aux médias. Puis je pense qu'il y a plusieurs facteurs là-dedans, mais un des facteurs importants, c'est que Marc Bergevin a tenté de calmer le jeu. Parce que là, il y avait la panique. Tout le monde se demande qu'est-ce qui se passe avec le Canadien. On apprend que Carey Price, en début de saison, sera pas là. Que Shea Weber est blessé probablement pour le reste de la saison. Probablement que sa carrière est même terminée. Et là, les blessures s'accumulent. Joel Edmondson, qui est au chevet de son père, qui est lui un des défenseurs les plus réguliers l'an passé chez le Canadien, est au chevet de son père. On sait pas quand est-ce qu'il va être de retour avec l'équipe. Donc, ce sont que des mauvaises nouvelles qui s'enchaînent. Et je pense que Marc Bergevin a tenté de calmer le jeu en disant, écoutez, ça se peut qu'on connaisse un mauvais départ. Présentement, je pense pas qu'il faut changer le club puis faut échanger tout le monde. Mais évidemment qu'on veut redresser la situation. Mais ce que j'ai pas aimé du point de presse à Marc Bergevin, puis je t'en ai parlé d'entrée de jeu, c'est qu'on a parlé de cette fameuse de ce fameux lendemain de veille-là, si tu veux, de la finale de la Coupe Stanley, qui pour moi ne doit vraiment pas servir d'excuse. Alors, tu sais, je comprends que le DG a décidé de sortir, je pense que ça en dit gros sur l'état de l'organisation, c'est-à-dire, là, on veut contrôler un peu le message, là, puis on veut calmer la tempête médiatique derrière tout ça, parce que on sait, c'est Montréal. Là. Ça s'est enchaîné vite. Là. On a perdu le premier match à Toronto, puis on perd le deuxième match contre les Sabres de Buffalo, puis là, c'est rendu que c'est la pire équipe de la Ligue. Mm-hmm. On savait que il allait avoir un vent de panique. Par contre, il n'y a rien qui nous a démontré que cette équipe-là, jusqu'à preuve du contraire, est capable de compétitionner contre les bonnes équipes de cette Ligue-là. Alors, je comprends le point de presse de Bergevin. Je trouve ça quand même spécial que le DG a décidé de sortir si tu veux, d'un peu n'importe où pour décider de s'adresser aux médias et aux partisans. Mais il y a aussi une autre question qui a été abordée dans ce point de presse-là, puis c'est celle-là que je veux surtout mettre l'accent dessus. Tu sais, là, on peut pas demander à une équipe d'être 100% impliquée, Sébastien, si ton DG te donne l'impression qu'il n'est pas 100% impliqué. Mm-hmm. Il y a beaucoup de spéculations sur Marc Bergevin présentement, à savoir s'il va être de retour la saison prochaine, parce qu'il écoule sa dernière année de contrat, il n'y a toujours pas de négociation. En tout cas,
c'est évasif, en tout cas. Quand la question y est posée, il reste assez évasif, on le sait pas trop. Que ça y tente plus?
Moi, je pense que oui. Puis tu sais, je t'en ai déjà parlé l'an passé, je trouvais que Marc Bergevin avait l'air d'un DG fatigué, un DG épuisé, à bout de ressources. Même s'il a atteint la finale de la Coupe cette année, là, l'année COVID a semblé l'avoir frappé de plein fouet. Puis tu sais, on le ressent chez les joueurs, là. Carey Price qui est en pause, Jonathan Drouin qui est en pause l'an passé. Tu sais, il y a plusieurs personnes qui ont de la difficulté à vivre ça. Là. C'est pas juste monsieur, madame, tout le monde, ce sont les athlètes également. Peut-être que Marc Bergevin aussi, là, lui, est dans une position où ça a été difficile de se relever. Peut-être que lui, il y a un épuisement de travail aussi. Puis peut-être qu'il se dit qu'il y a peut-être mieux ailleurs pour lui. Il y a peut-être quelque chose moins sous les réflecteurs ailleurs. Tu sais, on ne sait pas. Là, peut-être que Bergevin a eu des discussions cet été avec une organisation qui lui a dit « Hey, tu quoi, à la fin de ton contrat à Montréal, là, viens-t'en chez nous, viens-t'en assistant DG. Tu vas gagner sensiblement le même salaire, mais tu n'auras tellement pas la pression qui vient avec. Puis tu ne seras pas dans une ville où tu vas être observé sous la loupe. » Tu sais.
Non, parce qu'il y a des DG dont on n'entend jamais parler. Là.
Ben, c'est exact. Ça, oui. Je veux dire, si tu es DG... je sais pas, le mot à Dallas, là, tu ne seras pas dérangé, tu comprends, là, ça va être plutôt rare. Par contre, quand on lui a posé la question, Marc, est-ce que tu es intéressé à revenir avec le Canadien, il a sorti la fameuse phrase, dans un monde idéal, oui. Mais c'est quoi le monde idéal de Marc Bergevin? Est-ce que dans un monde idéal, Marc Bergevin revient à Montréal, mais il n'y a plus la pression médiatique, il revient à Montréal, puis il choisit... son nouveau président. Tu sais, on ne sait pas, là, ce monde idéal-là. Est-ce que c'est une façon aussi de se dire, dans un monde idéal, oui, mais c'est impossible, ce monde idéal-là? Tu sais, il a tellement été, si tu veux, évasif par rapport à ça, puis il a même demandé aux médias d'arrêter d'en parler. Mais c'est là la grave erreur du Canadien, puis moi, je pense que Paul Wilson, qui est DG des communications là-bas, aurait dû penser à ça. C'est qu'en en disant, on va arrêter d'en parler, je veux que vous arrêtez d'en parler, ce que ça va faire, c'est que ça va amplifier la situation. Parce que là, il n'y a rien qui nous dit que Marc Bergevin va être de retour. Même cette semaine, on parlait de Patrick Roy qui était dans les discussions avec Jeff Molson. Patrick Roy est obligé de sortir publiquement et de dire « Hey, j'ai jamais discuté avec le propriétaire du Canadien de Montréal. » Alors, tu sais, ça ne fait que faire un vent, si tu veux, de distraction sur un début de saison qui est un peu chaotique, là, on va être honnête, je pense qu'on peut le dire. Puis moi, ce qui me dérange le plus après ça, c'est de dire à une équipe, ben, on vous sent pas impliqué sur la glace, alors que le DG, on sent même pas qu'il est impliqué dans sa propre organisation. Je veux rien ajouter à Marc Bergevin, parce que je pense qu'au cours des 10 dernières années, il a fait un travail phénoménal avec cette équipe-là, il a changé la culture, il a voulu ramener une culture gagnante, même s'il y a des gens qui disent qu'il n'aurait pas fait les séries, etc. Écoutez, la réalité, c'est qu'il a fait la finale de la Coupe Stanley l'an dernier, une première depuis 1993. Je pense que Marc Bergevin a fait de bonnes choses. Il a gagné plus de transactions qu'il en a perdu. Mais reste que, pour moi, lui, il est complètement sorti de Montréal déjà dans sa tête. Alors, ce sera à suivre, mais j'ai l'impression que Marc Bergevin tient ses derniers points de presse en tant que directeur général du Canadien de Montréal.
Mais là, ce soir, là, à 19h, on verra s'il y aura une victoire, mais c'est aussi, ça marque aussi un peu les esprits, dans le sens où c'est où Claude Kanyemi sera là, sur la glace, au Centre Bell.
Ouais.
Est-ce qu'on va lui réserver un bon accueil ou on...
Je ne sais pas comment qu'on va réserver ça, puis c'est une bonne question que tu me poses là, puis j'y ai pensé parce que ça a été tout un été, là, avec les discussions entourant Jesperi Kotkaniemi, puis finalement qui a décidé d'accepter l'offre hostile des... Hurricanes de la Caroline. Est-ce qu'il va avoir un accueil chaleureux des partisans? Moi, j'en doute pour une raison, c'est que si Jesperi Kotkaniemi avait décidé de ne pas accepter l'offre hostile puis de rester à Montréal à un autre prix, là, on s'entend pas à 6.1, je pense que là, on n'en parlerait pas. Mais ce que Jesperi Kotkaniemi a fait, c'est de dire finalement, moi, je suis prêt à aller ailleurs. Je suis mûr pour aller ailleurs. Puis, c'est malheureux, là, mais Jesperi Kotkaniemi n'aurait pas eu 6.1 pour un an à Montréal, mais il aurait probablement été un projet à long terme, puis on aurait travaillé sur lui, puis à un moment donné, peut-être que pour lui, ça aurait été payant, parce que, regardez son début de saison avec les Hurricanes de la Caroline, là, présentement, là, c'est un gars qui joue des fois sur le premier, des fois sur le deuxième, puis des fois sur le quatrième trio de l'équipe. Mais comment ça se fait que si on a décidé de lui consentir un contrat de plus de 6 millions de dollars, on décide de le mettre sur le quatrième trio. C'est qu'en quelque part, le Canadien s'était pas trompé sur son évaluation. Je parle pas du développement, parce que le Canadien a peut-être pas développé Claude Kanyemi de la bonne façon. Par contre, on s'est pas trompé sur son évaluation au niveau du salaire, parce qu'il joue sa quatrième ligne.
Non, ça fait cher le trio, là.
Ben là, tu sais, je sais pas ça va être quoi l'accueil pour lui ce soir. J'aime pas non plus comment les Hurricanes de la Caroline ont décidé de le protéger. Écoute, on a décidé de faire un point de presse Zoom cette semaine, ben mercredi, donc hier, avec Kotkaniemi, au lieu d'affronter les médias aujourd'hui. Puis c'est drôle, hein? Tu vas avoir une soixantaine de médias sur le Zoom des Hurricanes, alors qu'au Centre Bell, en présentiel, il y aurait eu peut-être 10 journalistes. Tu sais, c'est quand même, c'est anodin. On tente de le protéger, mais je pense qu'on le protège de la mauvaise façon. Est-ce que c'est Kotkaniemi qui veut pas rencontrer la presse? C'est peut-être pas impossible, mais les Hurricanes font un travail un peu bizarre. Puis ça ne fait que mettre de l'huile sur le feu entre ces deux formations-là qui se détestent. Puis je pense que c'est pour ceux et celles qui avaient des doutes, là, qui se disaient bon, c'est de bonne guerre. Présentement, là, je pense que c'est deux formations qui ne s'apprécient pas beaucoup. Donc, on peut s'attendre à un match intéressant. Sauf que, en regardant la performance du Canadien contre les Sharks mardi, affronter une équipe comme les Hurricanes beaucoup plus complète, si tu veux, ce soir, et tabarouette, je donne pas cher de la peau du Canadien de Montréal pour le retour à Kotkaniemi à Montréal. Ça serait. En tout cas, j'ai l'impression que ça va être un match difficile. Et imaginez si Kotkaniemi marque le but gagnant ou simplement un but.
Ouais.
Oh, boy, je voudrais pas être Marc Bergevin demain matin.
Mais là, est-ce qu'il y aura beaucoup de monde au Centre Bell ce soir, Olivier?
Hey, quelle bonne question. Écoute, 5000 billets disponibles lors du dernier match. 5000 billets, là. On avait un peu plus de 15 000 personnes.
Ben, tu vois, incroyable. Tu vois, tu me dis 15 000, là, puis j'avais l'impression qu'il y avait moins de monde que ça. Il me semble qu'il y avait beaucoup de sièges vides, là.
Ben, c'est un bon point, parce que c'est 15 000 billets vendus, mais il y en a là-dedans qui ne se sont pas présentés. Tu comprends?
OK, oui.
Oui, oui, c'est ça. Donc, oui, probablement qu'on avait 15 000 billets vendus, mais il y avait encore 5 000 quelques billets disponibles, si tu veux. Mais, écoute, c'est alarmant, ça. Parce que, on n'a jamais vu ça à Montréal. Tu sais, je veux dire, quand je travaillais pour l'organisation, Sébastien, puis c'est pas une question de plugger ça, mais c'est vrai, ça n'a jamais été un problème de vendre des billets puis de remplir le Centre Bell. Ça n'a jamais été un enjeu.
Mais là, il semble que le Canadien a quand même soulevé le fait qu'il n'y a pas eu beaucoup de temps entre l'annonce pleine capacité puis ce match-là. Mais moi, j'avais l'impression que le jour où on annonçait une pleine capacité, ben les billets étaient vendus dans les heures qui suivent. Là.
On s'entend tout que le Canadien de Montréal a des ressources comme ça, pas de bon sens. Puis écoute, je vais prendre un autre exemple. Moi, je travaille pour l'équipe junior présentement, puis on a vécu la même situation que le Canadien de Montréal en changeant, si tu veux, les bancs, puis en changeant les mesures sanitaires en l'espace d'une semaine. De notre match d'ouverture d'octobre était à moitié capacité, alors qu'une semaine plus tard, on avait le droit à pleine capacité. On est beaucoup moins dans les bureaux administratifs chez les Olympiques de Gatineau qu'on était chez le Canadien de Montréal, puis on était capable de se tourner de bord. Je comprends que c'est pas 21 000 bancs, là.
Mais
pareil,
ouais.
Sébastien, on était capable de se tourner de bord. Ça, je l'accepte pas, cette excuse-là. Ça, là, ce qu'on dit présentement, là, c'est qu'on trouve des excuses. On a même blâmé ça sur le dos de la COVID puis du vaccin. C'est drôle, moi, ce que j'entends, c'est qu'il y a plus de 80-quelques% de la population de vaccinés. 80-quelques%, tu devrais, en théorie, pas avoir de difficulté à remplir ton aréna. Mais tu sais, pour défendre un peu le Canadien, c'est la même chose à Toronto, où tu as plusieurs millions d'habitants et tu n'es pas capable de remplir ton aréna. Alors, c'est une tendance, si tu veux, qu'on voit un peu dans les circuits majeurs professionnels, surtout au Canada, là, parce que quand tu regardes ce qui se passe à Houston dans la série mondiale présentement, eux autres, c'est tout juste s'il assoit pas quelqu'un, c'est les genoux du lanceur. Là. Eux sont à pleine capacité maximale, il n'y a aucune protection, il n'y a pas de masque, il n'y a rien. Tandis qu'au Canada, ce qu'on demande, c'est le masque. Est-ce que c'est ça qui fait en sorte que les gens sont réticents? Permets-moi d'en douter. Honnêtement, là, j'ai l'impression qu'il y a peut-être aussi toute la situation économique derrière ça. Le Canadien de Montréal qui vend des billets, qui sont tellement rendus dispendieux. Est-ce que ça fait en sorte que c'est un enjeu? Parce que oui, il y a une crise économique avec la pandémie, puis on ressent les effets encore aujourd'hui, puis on va les ressentir encore dans un an, parce que c'est normal. Ça fait partie de l'enjeu de la pandémie aussi, là. Écoutez, les épiceries, puis je ne vous ferai pas une chronique économique, mais vous allez faire votre épicerie, là, vous voyez déjà la différence de prix. Alors, est-ce que les gens ont encore de l'argent pour investir dans le sport, dans les événements comme ça? Peut-être un peu moins. Mais ça, c'est aux Canadiens de se renouveler puis de trouver une façon de remplir son amphithéâtre en faisant des promotions, en faisant peut-être même une baisse de prix. Mais écoute, ça n'arrivera pas, Sébastien, parce que du côté des propriétaires, on a vécu une année l'an passé où on n'a pas fait un sou. Puis là, on veut le faire, l'argent. Alors, en tout cas, quand ça te coûte 250$ pour être assis dans les mois puis manger un hot dog à 36 pièces là.
Ah non, c'est ça, une petite famille qui va aller voir un match du Canadien, même assis très très haut, ça fait dur là. On peut pas se le permettre là.
Tu hypothèques ta maison pour aller voir le Canadien. À un moment donné, là. Non, non, mais, tu sais, je fais des blagues.
Ah oui, ben on va l'écouter à la télé, à ce prix-là. On va se payer un bon souper, puis on va l'écouter à la télé. Là.
Exactement. Puis, tu sais, blague à part, ça devient un enjeu quand même important pour les organisations sportives. Puis, je blâme pas juste le Canadien, puis je blâme pas juste la Ligue, je blâme pas juste la Ligue nationale de hockey. Là. C'est plusieurs circuits professionnels, même des circuits juniors. On vit dans plusieurs marchés. Mais ça, il faut trouver une façon de se renouveler, puis trouver une façon d'attirer notre public, puis aussi de leur offrir le maximum possible avec les ressources qu'on a. Et j'espère bien que le Canadien, là, ce n'est qu'un faux pas. Mais écoute, 5000 billets au Centre Bell en saison régulière, c'est sûr que quand ton équipe connaît des performances en dents de scie, Sébastien, des fois, ça l'aide pas à vendre des billets, parce que ce qu'on dit dans le monde du marketing, c'est que la victoire, c'est ce qui est le plus vendeur. Alors, espérons que le Canadien retrouve le sentier de la victoire rapidement.
On va surveiller ça à 19h ce soir. Olivier Beauregard, un grand merci pour ton temps aujourd'hui.
Merci, bye-bye.